Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard ce soir vous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec le football et les huitièmes de finale de la Ligue des Champions demain. Enfin, nous recevrons Nicolas Dieuze, ancien joueur du TFC de Luznac, aujourd'hui conseiller de joueurs. Avec nous ce soir, la première de Mehdi Guillonneau. C'est bien ça,
ah, bonsoir. C'est bon, tu l'as.
Bonsoir. Éric Dupri.
Bonsoir.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Ouais, salut.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Comment allez-vous en ce lundi 11 février ou lendemain de défaite pour le 15? On va en parler tout à l'heure, mais
oui, comment ça va? Ça a été compliqué parce qu'avec trois défaites pour nos équipes de France contre l'Angleterre, ouais. La soupe est un petit peu à la grimace et les Anglais se sont les féminines et les seniors, voilà, et les Anglais ne se sont pas privés de se moquer de nous matin dans la presse.
Surtout que ce sont trois larges défaites.
Ouais. Oui, on n'a pas souffert sur les trois défaites. Timothée, je vous sens malade. Qu'est-ce qui vous arrive là, Timothée?
C'est la toux, c'est l'hiver, mais. Ne vous inquiétez pas, j'ai une petite chérie qui s'occupe de moi tous les soirs. Je la salue, je lui ai promis. Donc
voilà, il y a la Saint-Valentin bientôt.
Il y a la Saint-Valentin, donc on va faire les choses bien.
Heureusement, là, cette année, la Saint-Valentin ne tombe pas pendant un match de Ligue des Champions.
Ah oui, c'est vrai, c'était
l'an dernier. C'est la Ligue Europa. On peut négocier plus facilement.
On peut négocier plus facilement, ça c'est sûr.
Il y a mon papa qui est pas content, je vais vous le dire. Parce que demain, c'est l'anniversaire de ma sœur, donc de sa fille. Ah. Et il est au restaurant à la place de Manchester PSG.
Oh là là.
Il est déçu.
Ils ont qu'à prendre un drive là devant la télé.
C'est ce que j'ai dit, mais va au resto à 19h, tu rentres à 20h45, canapé, c'est réglé. Il me dit, voilà. Non, je peux pas. Il peut pas. Donc,
quel
c'est
dommage.
Comme ça. Hein. Mehdi, votre première, on va en parler. Comment ça va pour votre première dans Sportez-vous bien?
Mais très bien, motivé. Ça a été décidé tellement à l'avance que j'ai eu le temps de me préparer, donc tout va bien.
Exactement. On va le dire aussi à nos auditeurs. Parce que, voilà, vous avez remarqué que Lucas Serdic n'est pas là. Il y a Éric Dupri qui nous fait le plaisir d'être là également ce soir. Et puis tout à l'heure, vous êtes stagiaire. Exactement. Actuellement à Radio Présence, mais c'est vrai qu'on avait déjà discuté un petit peu de foot, de sport en général. Et puis tout à l'heure, il me dit voilà, j'aime le sport, est-ce qu'un jour on pourra en parler? Je dis, t'es là ce soir? Il me dit oui. Je dis, prépare un coup de cœur et un coup de gueule. Et c'est parti, on y va ce soir. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
Yes, exactement.
C'était parfait.
Exactement.
Éric Dupri, sans échauffement, attention à la blessure.
Il va y avoir un claquage. Éric Dupri, content de revenir.
Ah, mais très heureux. Ravi que vous m'ayez invité. Et je suis là avec beaucoup de plaisir.
Donc tout va bien.
Ah oui,
bien sûr. C'est parti.
Je crois qu'Éric revienne pour du tennis, hein, qu'il nous sorte un peu de la panade, parce que quand il y a des débats, c'est compliqué, quoi.
Exactement.
Patience.
J'espère que vous êtes prêts. Nous, on démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué. Et cette semaine, je vais dire, c'est pas français, mais vous êtes mitigé. C'est plutôt mitigé ce soir. Coup de cœur, coup de gueule. On va commencer par vous, Éric Dupri, avec un coup de cœur sur Pinturo, qui est champion du monde.
Oui, c'est le privilège de l'âge. Pour ça, vous commencez par moi.
Exactement.
C'est gentil. Oui, Alexis Pinturo, c'est tout frais. Hein. Il vient enfin de décrocher la timbale. La consécration, il a 27 ans, il n'est pas si âgé que ça, mais il y a quelques années qu'il courait après. Et il est devenu champion du monde de combiné cet après-midi, après une descente qui s'est pas si bien passée que ça.
Il est terminé 24e. Hein,
voilà,
il
y avait pas mal de temps à remonter, et puis il a fait un super slalom. Il a eu la chance apparemment de partir devant. Et donc d'avoir une piste beaucoup plus nette que les descendeurs qui ont suivi, qui étaient derrière lui. Et puis bon, il a gagné avec, je crois, 24 centièmes d'avance sur le deuxième. Voilà, bah écoutez, bravo Alexis Pinturo, champion du monde de combiné 37 ans après Michel Vion, qui avait été le premier champion du monde de combiné de l'histoire en 1982.
C'est seulement le deuxième.
Voilà, c'est la deuxième fois qu'un Français s'impose. Et ce qui est l'ironie de l'histoire, c'est que ce sera peut-être aussi le dernier. C'est-à-dire qu'on aura eu le premier champion du monde de combiné et le dernier, parce qu'il est question de retirer cette épreuve des championnats du monde. Voilà.
La boucle est bouclée, Timothée Rouvière.
Oui, tout à fait. On en parle souvent d'Alexis Pinturault dans cette émission. Et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir enfin champion du monde. Alexis, il a 27 ou 28 ans. C'est l'âge de la maturité. Moi, je dis, il a parfaitement mené sa course. Donc, c'est vrai que c'est pas un spécialiste de la descente. Donc, il a pris près de 2 secondes sur Dominique Paris, qui était en tête après la descente. Mais après, il a parfaitement géré son avance. Bon, c'est vrai que l'attente était un peu soutenable. Moi, j'étais devant ma télé. Donc, c'est vrai que c'est compliqué ces épreuves de combiné. Mais il a très bien géré entre les deux. Victor Mifajandé a fait un top 10.
Sixième,
c'est bien aussi. Donc voilà, on commence bien. Et moi, je rappelle la deuxième place de Johan Claret aussi sur le Super G. Donc deux médailles pour l'équipe de France. On attend Tessa Worley, on attend Clément Noël. Donc voilà, les mondiaux commencent bien.
Le tennis. Quand on parle d'Éric Dupri, on pense tennis. Le ski français se porte bien cette année. Puis même depuis un
En tout cas, moment. L'équipe masculine marche très bien. Et puis il y a des jeunes qui arrivent effectivement comme Clément Noël. Donc on peut avoir beaucoup d'espoir pour les années à venir, d'autant plus qu'un Alexis Pinturault à 27-28 ans, il a encore de belles années aussi devant lui, Victor Mifajandé. Oui, alors en revanche, c'est toujours chez l'équipe féminine où là on attend un peu la relève, même si Tessa Worley est toujours là, mais bon, dans les autres disciplines, autres que le slalom géant, y a des absences, hein. Enfin, vous pouvez confirmer, Timothée, vous qui suivez ça de près.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu léger, on en parle régulièrement au niveau du ski féminin français. Il y a Tessa Worley qui est là-haut, qui est double championne du monde, qui va tenter de remporter un troisième titre, mais derrière, il y a Romane Miraldoli, il y a Anne-Sophie Barthé, mais qui se fait un petit peu vieille,
qu'on avait reçu
ici. Voilà, il y a un petit creux de génération en équipe de
un
France féminine.
Un petit peu vieille, comme vous y allez.
Mais on verra.
Très galant.
Je pense,
on dit quoi ? Elle est en fin de carrière.
Elle est en fin de carrière, on dit ça. Mais voilà, creux de génération chez les filles. Et on espère que ça va rapidement arriver. Mais on ne se fait pas trop de soucis.
Bon, on va se mettre à l'abri. On va rentrer en salle. On va parler de basket, de NBA avec vous, Mehdi. Voilà, on va tout simplement parler d'un joueur qui fait des performances absolument incroyables.
Exactement, on va parler de Luka Doncic, le jeune ailier des Dallas Mavericks. Il a seulement 19 ans et il est en train de battre plein de records. Il est en avance.
Le Mbappé du basket.
Exactement.
Le vendre comme ça.
Ouais, c'est presque même au-dessus. C'est presque même au-dessus
ça
parce
existe.
Que, ouais, je pense, honnêtement, enfin moi c'est mon avis, je pense. Il a seulement 19 ans, il a débarqué en NBA cet été du Real Madrid. Il avait déjà été MVP de l'Euroleague. Il avait déjà été
MVP. L'Euroleague, c'est la Ligue des Champions.
C'est la Ligue des Champions du basket, exactement. C'est-à-dire meilleur joueur du championnat d'Espagne aussi. Il avait gagné un championnat d'Europe avec l'équipe nationale à seulement 18 ans. Et il a débarqué à NBA. Pourtant, il y avait des doutes sur ses capacités à adapter son jeu, notamment physique. Et il a fait taire tout le monde. Il tourne déjà à 20 points, 7 rebonds, 5 passes. Et surtout, il fait gagner son équipe. Et notamment hier soir. Hier soir, son équipe était menée de 15 points à 10 minutes de la fin. Il a mis 13 points sur ses 28 points dans le dernier quart-temps. Ouais. Et il les a fait gagner d'un point hier soir.
C'est très costaud ce qu'il fait à son âge, Maxime Brossard.
Ouais, c'est impressionnant. D'autant que comme il a dit, les Américains étaient très sceptiques. Parce qu'il faut rappeler que les Américains sont très protectionnistes par rapport au basket. Je crois qu'il avait été 3e ou 4e choix de la draft.
3e.
Ouais, 3e, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça a été vu comme un pari de la part de Dallas. Alors que les Texans, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en le prenant. Parce que finalement, ils nous regardent un peu de haut, nous, avec notre basket en Europe. Et là, il est en train de leur prouver le contraire. Et donc, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. En plus, il est épaulé par un Européen qui a très bien réussi en NBA, qui est Dirk Nowitzki. Donc, ça marche plutôt bien pour lui. Après, moi, je dis à confirmer quand même, parce que c'est vrai qu'il est jeune et puis bon, une carrière de basketteur, c'est long, il y aura peut-être des blessures et tout. Vraiment, ouais, c'est bien pour le basket européen.
Tu parlais d'un européen, il y en a un deuxième qui l'a rejoint, peut-être une future star, bon, qui est blessé en ce moment, c'est Kristaps Porzingis, qui a été échangé, il y a un transfert entre New York et Dallas, et on a hâte de voir, nous, en Europe, de voir ces deux-là ensemble, c'est les deux futures stars, et ils seront réunis ensemble sous le maillot des Mavericks en NBA.
Bon, gardez la parole, Maxime Brossard, parce qu'on va parler de rugby. Alors, Éric Dupri va nous faire un coup de gueule sur la composition du 15 de France, mais vous, c'est un petit clin d'œil parce que c'est un coup de cœur sur le 15 de la Rose, sur les Anglais qui nous ont appris littéralement à jouer au
rugby. Ouais, je pense on a perdu que ce soit donc chez les A, quoi, chez les plus grands, on a perdu chez les filles et on a perdu aussi chez les U20. Je pense que si on avait fait le match chez les minimes, les Benjamins et les mini pouces, on aurait perdu aussi. Donc va falloir se poser les bonnes questions. Là, ça commence à être très très compliqué pour le 15 de France. On en a parlé un peu avant l'émission. Il y a plein d'interrogations. Le problème, je pense, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel sens va le rugby français. Il y a vraiment et en fait justement la réponse elle vient des Anglais, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va vraiment dans le même sens et ils ont un projet commun qui est un projet que l'on retrouve dans toutes les catégories, c'est-à-dire que si vous regardez comment jouent les filles et comment jouent les garçons et comment jouent les plus jeunes, ils ont tous la même tactique, tous le même projet de jeu, et donc en fait on voit qu'il y a vraiment une très bonne colonne vertébrale au niveau de la fédération et un message qui passe bien dans les clubs et au niveau des sélections inférieures, on va dire.
C'est ce qui manque pour l'équipe de France. On va en parler tout à l'heure de l'équipe de France, mais est-ce que c'est un exemple à suivre ce qui se fait en Angleterre?
Oui, certainement. Enfin, ils ont leur système de formation propre depuis des années. Bon, nous, on sait les problèmes qu'il y a dans le top 14 où on a beaucoup d'étrangers. Et donc, à certains postes, les joueurs français ne jouent pas. Et on retrouve ça en équipe de France. Il y a un déficit, un manque à de nombreux postes. Maintenant, tout remettre à plat, repartir sur de nouvelles bases, oui, il va certainement falloir, parce qu'on ne peut pas rester comme ça avec des résultats, j'allais dire aussi nuls, mais c'est un peu le mot
aussi
quand
nul,
même.
Hein,
aussi
aller,
nul, hein. Sachant qu'on a un réservoir de joueurs qui est largement équivalent à celui des Anglais. On a beaucoup de joueurs en France.
Timothée Rouvière.
Bon, voilà.
Moi, je suis d'accord.
Pas d'accord.
Je suis d'accord qu'on a un réservoir de joueurs en équipe de France, mais il y en a beaucoup de supporters qui disent voilà, il faut faire monter les moins de 20 et on gagnera. Mais moi, je rappelle quand même que les moins de 20, on a vu Romain Tamac, il a pas le niveau international,
non,
ce garçon. Je suis d'accord.
Pas encore.
Il a pas
ce qui est normal, j'ai envie de dire. Quand on passe.
Je suis d'accord. Il faut tout revoir.
Excusez-moi,
faut voir au niveau de la fédération.
Quand je parle du réservoir de joueurs, je parle du nombre de licenciés.
C'est ça. Voilà.
Ah d'accord.
Je parle
du nombre
de licenciés. Donc il n'y a aucune raison pour qu'en France on n'arrive pas à sortir les grands joueurs qu'on a eu régulièrement à des époques pas si lointaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ou 8 ans?
Pour vous rejoindre, Eric, je prends l'exemple du Pays de Galles. C'est un pays de 3 millions d'habitants. La France, il y en a 60 millions. Et bien, comparez les résultats, tout simplement.
Oui. Bon, alors, c'est sûr qu'on joue beaucoup plus au rugby parce que c'est un sport national dans les pays anglo-saxons, mais quand même.
On va en revenir sur le rugby, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais on va juste faire un petit mot de tennis avec vous, Timothée Rouvière. C'est votre coup de cœur sur la Fed Cup, l'équipe de France qui se qualifie pour les demi-finales de la Fed Cup, l'équivalent de la Coupe Davis. Hein,
voilà, tout à fait. Alors je pensais qu'Eric allait le prendre, un grand spécialiste de tennis qu'il est.
les femmes, baissez le son. Le tennis féminin, j'ai du mal depuis quelques années.
D'accord, très bien. Mais moi je pense que c'est important de souligner la performance de cette équipe de France qui était en quart de finale donc contre la Belgique qui a remporté ce match 3-0.
Très grosse perf. Hein,
très grosse perf. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de top joueuses en Belgique, ça c'est sûr, mais c'est quand même une équipe solide. Donc les Françaises qui ont gagné avec Caroline Garcia qui a battu Alison Van Jutsvang, alors je suis désolé pour la Belge, mais la prononciation n'est pas top, et contre Elise Mertens, c'est Alizé Cornet qui a aussi battu Elise Mertens. Ça fait 3-0. Moi, ce qui me fait plaisir dans cette équipe de France, c'est une équipe de France qui revit. Julien Beneteau, le nouveau entraîneur, capitaine de cette équipe de France de Fed Cup, qui était encore joueur il y a 4 mois, a réussi à insuffler un nouveau rythme.
Et il a convaincu Garcia de venir, ce qu'il n'avait pas réussi les autres capitaines à faire.
C'est ça qui est assez formidable. Il a convaincu Caroline Garcia de revenir après 2 ans d'absence. Elle souhaitait se concentrer sur sa carrière solo. Et une belle équipe de France. On voit que chez les garçons, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais la Fed Cup qui marche bien. Et l'équipe de France qui affrontera le 21 et 22 avril prochain la Roumanie, qui a battu quand même une grosse performance des Roumaines, avec Simona Halep en tête, qui a battu la République tchèque 6 fois vainqueur de l'épreuve.
La France a toutes ses chances contre la Roumanie.
Oui, alors moi, en dehors de Simona Halep, j'avoue, je ne connais plus Simona Halep. Je ne connais pas l'autre joueuse roumaine, les autres joueuses roumaines. Bon, Alep sera sans doute difficile à battre, encore que. C'est vrai que le retour de Garcia change complètement la donne, parce que potentiellement, c'est une fille qui a le niveau top 10, voire top 5. Donc, partant de là, peut-être que ça peut être la bonne année pour l'équipe de Fed Cup française.
Une équipe de France qui marche bien, contrairement, on va parler tout de suite du rugby, on retourne sur le rugby, contrairement à l'équipe de France de rugby. Juste comme ça, on accueille notre invité, Nicolas Dieuze, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. On va parler un peu de rugby, on parlera du foot avec la Ligue des Champions et on parlera de vous également juste après. On a cru comprendre que vous voulez intervenir aussi sur le rugby.
Déjà, en préambule, je vous remercie parce que j'ai l'impression de lire la seconde partie du magazine L'Équipe, du journal L'Équipe, que je lis jamais en fait. C'est-à-dire le tennis,
vous arrêtez au
le
foot,
basket,
quoi.
Je m'arrête au foot. Même si je suis passionné de sport, mais c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mon métier, on en parlera, moi aussi, il m'oblige à avoir toutes les informations sur le football. Mais je suis passionné par ce que vous dites. Bon. Et je vais laisser donc Eric parler de la composition de rugby.
Et comme ça, on parlera après de l'équipe de France de rugby, il y a beaucoup de choses à dire.
Tout à fait.
Eric, la composition, c'est votre coup de gueule sur ce.
On va pas revenir sur le résultat et la sépiteuse prestation du 15 de France hier à Twickenham. En revanche, on va remonter un petit peu en amont. Moi, la composition qu'a fait Brunel pour ce match, pour moi, c'est totalement incohérent par rapport à ce qu'il avait voulu faire pour le premier match contre les Gallois, c'est-à-dire une équipe un peu plus coureuse, en titularisant une Tamac au centre à la place de Bastaro, qui semblait, il y a un an, même pas un an, six mois encore, indéboulonnable. Et puis là, il revient, donc il met Bastaro au centre à la place de Ntamak.
Ramos sur le banc.
Il fait jouer Huger à l'arrière, qui n'a pas joué à ce poste depuis je ne sais combien de temps. Ouais. Ficou, qui n'a pas trop envie de jouer à l'aile, il a déjà dit, il le met à l'aile. Pour moi, tout ça est complètement incohérent. Et les Anglais, évidemment, ne nous ont pas ratés. Ils ont monté des chandelles sur nos ailiers. Ils ont un très bon jeu au pied, il faut dire, contrairement à nous. Et on a vu assez rapidement les dégâts. Donc ça, moi, je ne comprends pas. Pourquoi on laisse la Ferrari au garage, Antoine Dupont? On a vu quand il est rentré tout de suite, ouais, ça m'a apporté du danger, de la vitesse, du punch. Je ne comprends pas. Je me pose aussi la question, est-ce que c'est bien Brunel qui fait la sélection? C'est une autre question qu'on peut se poser.
Il n'est pas content, Eric. On l'entend, là.
Non, mais bon, il faut tenter des choses maintenant. On ne peut pas rester comme ça.
On a 8 mois de la Coupe du Monde.
Il y a le fait aussi que, on a affaire à une génération, la génération qui a entre 28 et 32 ans aujourd'hui, qui a tellement perdu, les pauvres, que je crois que,
psychologiquement, ils
rentrent sur le terrain déjà avec le moral dans les chaussettes. On manque de chance, on fait une équipe très défensive pour tenir le coup pendant un quart d'heure pour faire douter un peu les Anglais. On prend un essai au bout d'une minute. Faites quelque chose, monsieur Brunel. Tentez quelque chose.
Maxime Brossard, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Eric?
Tout à fait.
Il y a un ras-le-bol général.
Sur toute la ligne, et surtout, il a pointé quelque chose qui est cruel de vérité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de changements dans cette équipe de France. Et c'est vraiment typique du 15 de France. Et d'ailleurs, si vous regardez les autres équipes, vous pouvez arriver à peu près à sortir le 15 de départ, si vous suivez le rugby, sans avoir la composition sous les yeux. Sauf qu'en France, c'est quelque chose qui est impossible. Il y a trop de rotation. À 2-3 joueurs près, c'est jamais les mêmes qui jouent. Donc en fait, vous ne pouvez pas créer des liens entre les joueurs si vous ne les faites pas jouer ensemble. C'est aussi simple que ça.
Ça marche, Nicolas Dieu, ça marche pour le foot, ça marche également pour le rugby. Il y a un problème là-dessus?
En fait, moi, j'ai l'impression que depuis... c'est une réflexion que je me faisais il y a quelques années de cela. Au rugby, c'est très particulier. On fait souvent jouer des joueurs en sélection, à des postes qui ne sont pas les leurs en club. C'est très récurrent. Je me suis posé la question souvent, je me dis pourquoi ils font ça? Il devrait bien y avoir des spécialistes de leur poste dans les clubs, il me semble. Enfin, apparemment, ce n'est pas le cas. Après, je parle sous votre couvert. Est-ce que les autres sélections naturalisent autant de joueurs
que la France? C'est vrai que la France naturalise beaucoup de joueurs.
L'Écosse, il y a énormément de joueurs naturalisés. Ça vient du fait que c'est un petit pays, donc il n'y a pas un vivier.
Les Anglais le font aussi?
Les Anglais le font pas mal. En fait, il y a, je pense à Nathan Hughes, par exemple, qui est un des joueurs clés, qui joue devant, qui est très solide, qui est néo-zélandais. Il y a Tuilagi qui a été naturalisé. Il y en a quelques-uns, mais peut-être pas autant que les Anglais, mais le recordman, c'est l'Écosse.
D'accord. Vunipola aussi.
Ouais. De manière quand même.
Alors les Écossais, c'était vrai il y a longtemps, et c'est encore vrai aujourd'hui, souvent ils vont chercher des étrangers qui ont un ancêtre écossais.
Ouais, ouais, c'est vrai, ils pensent souvent ça. Ouais.
Nous, c'est plus compliqué, sauf avec les Sud-Africains, les De Villiers, les Duplessis, tous ces gens-là.
Ça passe mieux.
les Leroux.
Éric Dupré, on avait un petit peu parlé, est-ce que vous partagez ce point où le problème français de l'équipe de France, du 15 de France, c'est son championnat, un peu comme l'Angleterre avec le football, à l'exception de cet été avec la Coupe du Monde où ils font quand même demi-finale, mais en Angleterre, pour le football, il y a énormément, c'est le championnat phare au monde, c'est au moins en Europe, mais plutôt au monde, avec beaucoup de joueurs qui gâchent un peu la progression des jeunes joueurs anglais. Est-ce qu'on n'a pas ce problème avec le rugby français?
Je pense qu'on l'a un peu, on l'a abordé avant l'émission. Après, je pense qu'il y a aussi un problème de qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce qu'on met d'abord les clubs en avant ou est-ce qu'on met la sélection? C'est souvent le débat récurrent entre les présidents de fédération et les présidents de clubs qui défendent leur précaré. Pays de Galles, ce sont des provinces aussi.
C'est des provinces.
Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, ce débat-là, il a déjà été ouvert. Mmh. Et tant qu'il ne sera pas vraiment
On doit limiter les joueurs étrangers par club.
Je pense qu'effectivement, ça part
de ça peut aider le 15 de France.
Mais je pense que les rassemblements de l'équipe de France, est-ce qu'ils sont suffisants pour créer
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les autres pays, les joueurs sont sous contrat avec la fédération. Voilà. Et donc ils sont prêtés par la fédération dans les clubs. Et là nous c'est l'inverse en fait, finalement c'est les clubs qui prêtent les joueurs, on va dire, dans les fédés quoi.
Éric Dupré.
Oui, juste je rappelle dans quel trou était le 15 écossais il y a quelques années. Ouais. Et un peu et plus lointainement, même l'Irlande. Hein, à une époque, l'Irlande était c'est un peu le parent pauvre du tournoi, ce qui était à l'époque le tournoi des Cinq Nations. Ouais. Bon, vous voyez à quel niveau ils sont revenus aujourd'hui. Alors que je reviens là-dessus, ils ont un réservoir de joueurs quand même bien moindre que le nôtre.
C'est sûr.
Donc il y a quelque chose là aussi un peu incompréhensible.
Timothée Rouvière.
Moi, juste pour conclure, moi je pense que c'est une question de politique. Ça se joue au niveau des instances du rugby. Quand on voit l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Argentine qui privilégient leur équipe nationale plutôt que leur club, nous en France on privilégie nos clubs à l'équipe nationale. Donc je pense que le débat, tout est dit là.
On verra les performances de l'équipe de France qui va accueillir l'Écosse dans 15 jours.
Dans 2 semaines.
Dans 15 jours, ouais, dans 2 semaines. Et on verra également ce qu'ils vont faire pour la Coupe du Monde au mois de septembre. Nous, on se retrouve tout de suite avec l'agenda de la semaine.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
En l'absence de Lucas Serdic, son remplaçant est prêt, son remplaçant
comme il peut, hein.
Et là, l'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard, on va commencer par du rugby.
Ouais, comme d'hab, on commence par du rugby, vous venez de le dire, coupure destination, donc on va attaquer avec de la Pro D2, Béziers 6e qui reçoit Colomiers, donc 15e. Colomiers qui a bien réagi justement, ils ont gagné contre Vannes à la maison, et donc il y a vraiment l'espoir du maintien qui est encore possible. Ouais. Enfin. Ce sera ce jeudi à 20h, donc dans l'Hérault. Ensuite, il y a Montauban, 13e, qui va pas très bien aussi, et qui reçoit Brive, passé pour les clubs du coin, du coup ce sera dimanche à 14h15. On passe au top 14, la 16e journée. Pau qui reçoit le Castres Olympique samedi à 18h, Agen qui reçoit le RC Toulon à 20h45, et dimanche le choc à 16h50, le Racing 92 qui reçoit le Stade Toulousain. Ça sera un peu le preview du match de quart de finale de Coupe d'Europe. Ouais. Rapidement, la Fédéral 1 avec la poule 2, donc
Blagnac.
On va aller vite dimanche à 15h puisque c'est l'heure sacrée pour tous les clubs. Donc on aura Oloron qui va recevoir Lavore, Lannemezan Saint-Jean-de-Luz, le Stade Bagnéré qui va recevoir le leader Albi dans la poule 2,
c'est beau.
Valence d'Agen contre Tyros, et la poule 3, un choc, faites attention, ça Groyer qui va recevoir Saint-Sulpice sur l'Aise. L'arbitre va avoir du travail, j'espère qu'il va pas oublier les cartons à la maison. J'enchaîne avec
le football.
Le foot,
on
parle
de foot.
Et on va commencer avec le TFC qui est resté donc sur un nul contre Reims, un partout, et on a une réaction.
Casanova qui était vraiment vraiment frustré, vraiment agacé après ce match nul hier contre Reims au Stadium.
Moi, j'ai toujours été agacé quand, que ça soit pour un joueur ou pour une équipe, quand on sent qu'il y a du potentiel, mais que pour une raison ou pour une autre, on l'exprime pas totalement. Alors, j'ai de l'empathie parce que j'ai été joueur et je sais que je peux être fébrile sur un début de match. En plus, bon, vous l'avez vu, notre public il a envie de nous voir nous lâcher, il a envie de nous voir jouer. Et quelquefois, il comprend pas que pour bien repartir, bien relancer, on puisse passer par notre gardien. Donc, peut créer un peu de fébrilité. Mais on a 26 points, on est à domicile face à une équipe pour laquelle j'ai beaucoup de respect parce qu'elle fait énormément de belles choses. Mais aujourd'hui, on devait, sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan technique, on devait faire un match qui correspondait aux 20 dernières minutes.
Le TFC qui a battu un record hier en battant ce record, 10 matchs de suite à domicile sans victoire en championnat. Dernière victoire, c'était le 25 août contre le Nîmes Olympique 1-0. La semaine prochaine, c'est un derby, c'est à Bordeaux, on va parier sur ça, c'est bien ça, Bordeaux-Toulouse semaine prochaine.
On fera le point sur les paris quand Lucas sera de retour. Là, je vais vous proposer de parier donc, du coup, sur Bordeaux-TFC.
Un gros match en perspective, surtout avec la forme du moment des deux équipes.
Ouais, écoutez, c'est parti, Timothée, ton pronostic du coup.
Alors moi, je partirais sur, on va être optimiste et un petit peu chauvin, allez, 2-1 pour Toulouse.
Ok, donc ouais.
Mehdi, un pronostic.
Moi, je serai au stade et j'espère voir quelque chose, mais j'y crois absolument pas. Je vais dire un partout.
Un partout. Éric Dupri.
Rien.
Je vais être, optimiste. 2-2.
2-2. Nicolas Dieuze, ancien joueur.
Victoire de Toulouse 2-0.
Bon. Au moins, c'est. Moi, je vais
parce que Toulouse fonctionne bien à l'extérieur, malgré tout.
Ils et Bordeaux ne marche pas bien à domicile.
Ouais, et puis, ouais, on a. Enfin, cette équipe de Toulouse, elle a de la qualité. Et elle est capable d'aller faire un résultat là-bas sur une équipe, ouais, fébrile. À Bordeaux, fébrile.
Moi, je vois un très gros match 0-0.
Super.
0-0. Et vous, Maxime Brossard ?
Ouais, victoire du TFC 1-0. Ouais.
Donc 1-0 pour le TFC, on verra, ce sera le week-end prochain, dimanche prochain, sur, chez nos confrères de Bein Sport.
Ouais, j'enchaîne du coup avec Montpellier, qui va y avoir un match très important contre Lille, ce sera dimanche à 15h du coup à Montpellier. Je continue le foot avec la Nationale 2, Colomiers qui va se déplacer à Bergerac. C'est un peu un coup de mou, Colomiers, ça fait quelques matchs qu'ils ont du mal, ils n'arrivent pas à gagner depuis, ça fait 5 défaites d'affilée je crois, ouais, c'est bien ça. Je passe au Andre rapidement avec le Phoenix 10e qui lui au contraire va bien mieux comparé au début de saison qui avait été très difficile pour les Toulousains.
Ils ont très mal débuté. Hein.
Ouais, ils vont se déplacer à Tremblay, ce sera mercredi à 20h30.
Avant de recevoir le PSG le 20 février.
Avant de recevoir le PSG, ouais. Voilà, il va falloir bien se préparer. En plus là ils sont comme on disait donc en pleine bourre, ils restent sur 3 victoires de rang, ils ont battu Ivry, Istres et Pontecombo.
Et ils se sont juste inclinés malheureusement en Coupe de la Ligue, ils ont 3 victoires de suite en championnat, ils se sont inclinés au tir au but,
oui,
au tir au but à Dunkerque. C'est rare,
ouais.
Et ils se sont inclinés au tir au but à Dunkerque.
C'est vrai, c'est vrai.
Et enfin un mot sur les Belugas.
Ouais, rapidement, comme souvent le hockey, bon ils ont perdu 5-2 le hockey, mais ils étaient déjà assurés d'être qualifiés, il n'y avait aucun enjeu, ils sont allés en tong et en short à Morzine du coup j'espère qu'ils n'ont pas eu trop froid sur la glace. La qualification va se jouer donc les huitièmes de finale le 23 février. Ils vont se déplacer à Châlons en Champagne pour le premier tour des playoffs et après ils recevront parce que ce sera le match aller, match retour aux alentours du 1er mars. Voilà.
Merci Maxime, on passe au débat de la soirée avec la Ligue des Champions.
Sportez-vous bien. Le débat.
Enfin, demain marque le retour de la Ligue des Champions, un moment toujours attendu pour les amateurs de football, surtout quand il y a deux clubs français en huitième de finale de la Ligue des Champions, une compétition où la France est malheureusement à la recherche d'une deuxième victoire après Marseille en 1993. Messieurs, vous avez l'habitude, on ne répond que par oui ou par non et ensuite on débat. Est-ce la bonne année enfin pour le Paris Saint-Germain ou pour l'Olympique Lyonnais, Timothée Rouvière?
Jamais de la vie, non.
Jamais. Maxime Brossard?
Non.
Mehdi?
Non plus.
Non plus. Nicolas Dieuze.
Non.
Ça va être compliqué. Éric Dupri.
Eh ben non aussi.
Malheureusement. On va passer à l'interview.
Il n'y aura pas de débat.
Bon, Timothée, c'est trop gros encore pour un club français de gagner la Ligue des Champions. Même alors, pour le Paris Saint-Germain.
Une fois n'est pas coutume, on va commencer par Lyon. Moi, je veux dire une chose sur Lyon, c'est une équipe de qualité. Il y a de la qualité partout, devant, derrière. Mais tout simplement, c'est le Barça en fait. C'est le Barça en face. Donc, c'est Messi, c'est Suarez, c'est Dembélé, c'est le milieu de terrain, c'est Busquets, c'est un gardien, Ter Stegen. Tout simplement, pour Lyon, ça va être compliqué, même s'il y a une équipe de vraiment de bonne qualité. Après,
N'est-ce pas le meilleur tirage pour Lyon? Bon, il n'y aura pas Fekir au match aller, malheureusement il est suspendu, mais on disait pareil, ils étaient dans une poule avec Manchester City, ils ont pris 4 points contre Manchester City. Petite parenthèse, Manchester City qui a battu Chelsea en championnat 6-0 hier, ils ont battu le Paris Saint-Germain en championnat il y a une semaine. Est-ce que Lyon n'est finalement pas fait pour ces très 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 gros matchs? Parce que là le Barça c'est...
C'est vrai que Lyon arrive à se surpasser dans les gros matchs, on l'a vu contre City, on l'a vu contre Paris, mais tout simplement, il y a un match aller-retour déjà, et la Ligue des Champions est tellement dans la culture catalane que ça me paraît compliqué. Il y a des compétiteurs, il y a des gagnants dans cette équipe de Barcelone, je dis pas qu'à Lyon il n'y en a pas, hein, mais il y a moins cette culture de la gagne et la culture de la Coupe d'Europe dans l'effectif lyonnais, moi je pense.
Pour les Lyonnais, il y a un manque d'expérience clairement sur ce genre de match, même si, encore une fois, on le redit, ils ont fait de très gros matchs en Ligue des Champions, ils sont invaincus en Ligue des Champions tout simplement.
Mais dans les gros matchs tout court, Lyon est toujours là. Dès qu'on leur enlève de la pression et le fait de faire le jeu tout simplement, Lyon est là. Je pense que Lyon répondra, mais il risque de tomber sur un Barça qui a vu le Real Madrid gagner 3 fois la Ligue des Champions d'affilée et qui risque de se concentrer là-dessus. Et je pense que le gros objectif de la saison pour le Barça, c'est la Ligue des Champions. Et malheureusement pour les Lyonnais, voilà, le but, ça sera quelque part de tomber avec les honneurs, de donner tout ce qu'ils ont. Moi, j'aime beaucoup l'Olympique Lyonnais, c'est ma génération, je fais partie de cette génération-là. Et voilà, moi, je veux juste pas les voir sombrer, couler. Et je pense que... Je pense qu'ils le font.
Nicolas Dieuze, l'absence de Nabil Fekir, capitaine, champion du monde cet été avec l'équipe de France, c'est le gros point noir de cette confrontation. Il est absent que pour le match aller. Il est suspendu juste pour ça.
Oui, clairement. Mais après, je pense qu'ils vont quand même donner du fil à retordre au Barça. Je ne pense pas que ce soit un tirage facile pour le Barça.
Pour le Barça.
Certainement pas pour Lyon non plus. Mais ils ont des atouts. Alors la question, c'était est-ce la bonne année pour le Paris Saint-Germain? Non. Pour Lyon non plus. Par contre, je ne dis pas que les deux ne passeront pas contre Manchester et le Barça. Lyon est capable. Lyon a déjà une expérience bien plus importante que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, on est d'accord.
Ils ont une expérience. Donc il y a une culture de la gagne, il y a une culture de ces matchs-là. Certes, le match retour sera important aussi, parce que comme dans toutes ces confrontations, le match retour est toujours très important. Mais j'ai envie de mettre une pièce.
Qualification de Lyon, facile. Ah
ouais. Sûrement pas facile.
Quand même pas.
Et oui, la cote doit être énorme, mais j'ai envie de la mettre. Ouais, j'y crois parce qu'ils donnent des garanties. Même hier encore contre Nice, c'est un match qu'ils doivent gagner.
C'est ça qui est bizarre.
10 fois. Mais bon, Fekir est important dans cette équipe aussi, c'est vrai.
Et il est absent. Et Eric Dupri, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Paris qui va se déplacer à Manchester sans ses stars. Est-ce possible demain à Manchester?
Moi, je ne les vois pas s'imposer à Manchester. Maintenant, sur l'ensemble des deux matchs, ils ont évidemment toutes leurs chances. Demain, s'ils font un résultat positif, même un match nul, je trouve que ça serait déjà très bien. Bon, voilà.
Un match nul à Old Trafford, c'est un bon résultat pour le PSG. Après, tout dépend du contexte. S'ils mènent 2-0, qu'ils font 2-2, c'est mauvais. Mais...
Alors oui, ce sera un bon résultat parce qu'on sait que c'est compliqué de gagner de faire un bon résultat à Old Trafford. Et surtout, au vu de l'équipe de Manchester actuellement qui carbure à plein régime.
Ouais, et contre Fulham et Brighton, quoi.
Oui, c'est pas faux. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. On est à 12 matchs depuis le licenciement de José Mourinho. 10 victoires. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Pogba une victoire qui revient contre très bien. Un très gros en championnat. Ils ont gagné à Arsenal en cup avec deux équipes mixtes. Et ils ont gagné à Tottenham 1-0, où ils doivent en prendre 6 dans le match. Donc oui, mais... voilà, je trouve... Est-ce que finalement le Manchester United n'est pas revenu à la norme? Avant, ils ne gagnaient pas contre Brighton, contre Huddersfield, contre Fulham. Là, ils gagnent. Est-ce qu'on n'est pas revenu à la norme du côté de Manchester? On n'est rien dans l'exceptionnel, là.
Alors, on est revenu à la norme, ça c'est sûr, avec des victoires contre des équipes convenables, mais moi je pense que c'est l'état d'esprit qui a changé à Manchester.
Oui,
c'est
vrai, ça on est d'accord.
Voilà,
on
c'est l'état d'esprit et ça fait absolument
ça
tout.
Fait beaucoup.
Et on
ça
voit avec un joueur comme Paul Pogba qui n'a pas réussi à s'exprimer sous José Mourinho, là avec un nouvel entraîneur norvégien, il excelle, il a 8 buts, 3 passes décisives, c'est extraordinaire, c'est vraiment l'état d'esprit qui peut faire la différence, surtout contre un Paris qui est affaibli. On rappelle, il n'y a pas Meunier, il n'y a pas Neymar, il n'y a surtout pas Cavani.
Nicolas Dieuze, vous qui avez été joueur professionnel, la psychologie change énormément. Surtout sur ce genre de match. Donc le Manchester, certes, encore une fois, n'a pas battu, t'es très gros, mais les bas, ça change beaucoup.
Je pense qu'aujourd'hui, Manchester est armé psychologiquement pour battre Paris, même sur les deux matchs. Surtout, vous parlez de surtout de Cavani, mais l'absence de Neymar.
C'est terrible, c'est incroyable.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vois pas Paris Saint-Germain pouvoir gagner la Ligue des Champions sans Neymar. C'est impossible. Pour moi, alors Cavani est important, Mbappé l'est, Meunier certainement aussi, mais c'est un joueur extraordinaire, Neymar.
Il a une telle affluence.
Qui change le cours de match, qui change tout. Donc ça, pour moi, déjà passer les huitièmes, arriver déjà en demi-finale, ce serait extraordinaire pour Paris Saint-Germain. Et c'est pas fait aujourd'hui. C'est clairement pas fait.
Mais dis, le PSG peut clairement le faire, ou ils sont trop handicapés pour ce match aller, même s'il y a une échéance retour, mais il ne faut pas prendre trop de retard avant le match au Parc des Princes.
C'est toujours pareil, quand on voit les joueurs sur le terrain, comment on peut imaginer qu'ils ne peuvent pas le faire? Ils ont les capacités de le faire. Après, par rapport au tirage au sort, la psychologie s'est complètement inversée. Manchester était avec Mourinho, ils étaient au fond du seau, le PSG était bien, etc. Et là, le PSG enchaîne les blessures et Manchester enchaîne les victoires. Donc le rapport est complètement inversé. Et moi, je trouve que le match, moi, j'ai hâte de le voir parce que ça risque d'être complètement indécis. La défense de Manchester est quand même assez poreuse, et avec l'attaque du PSG, même sans Cavani ni Neymar, il y a de quoi faire. Il y a une belle indécision, moi, je pense, sur ce match-là, et j'ai hâte de voir ça.
Est-ce la grosse différence, pour le Paris Saint-Germain depuis qu'ils ont été rachetés par le Qatar, ou depuis qu'ils jouent la Ligue des Champions très régulièrement? Est-ce que le fait d'avoir un groupe relevé pour la première fois depuis 2012-2013, on va expliquer, il y a 4 équipes par poule, les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale. À chaque fois, le PSG tombait avec Donc il y avait le PSG et un très gros Arsenal, le Real, le Barça, le Bayern. Ils étaient assurés d'être qualifiés, donc ils la jouaient pas vraiment fond, il fallait juste savoir premier, deuxième. Là, cette année, ils étaient dans la poule de Naples, ils étaient dans la poule de Liverpool, ils ont été troisième et éliminés pendant un très long moment. Est-ce que le fait d'avoir mis le bleu de chauffe d'entrée, c'est pas tout bénef pour le Paris Saint-Germain, et surtout d'avoir perdu à Lyon, on en a parlé de Lyon tout à l'heure, mais est-ce que le fait de s'être fait un peu bouger une semaine avant à Lyon, c'est pas tout bénef pour le PSG?
Alors c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir affronté Liverpool et Naples en phase de groupe, ça leur a permis de tester, de mettre le bleu de chauffe dès le mois de novembre, mais tout simplement, moi si je regarde la composition du PSG qui va être aligné demain, on voit qu'en défense, c'est pas l'assurance tout risque, surtout sur les côtés, le milieu avec Rabiot qui a été mis au ban, Verratti qui est pas sûr de jouer, et Leonardo Paredes qui arrive tout juste, et en fait ce qui fait la force de ce Paris Saint-Germain, on l'a bien vu durant les phases de poule, c'est son attaque, mais le problème c'est qu'on n'a pas Cavani, on a surtout pas Neymar. Et le problème c'est qu'on a un seul joueur avec Mbappé, mais qui doit faire le travail pour trois attaquants, qui se démultiplie sur le terrain et qui n'est pas efficace à la fin.
Il y a d'autres options comme Draxler qui est champion du monde avec l'Allemagne en 2014 et Di Maria qui lui a joué à Manchester United. Lui il a une revanche à prendre, hein,
ouais, clairement. Après Di Maria c'est
tout ou rien,
pile ou face, ouais, c'est tout, des fois c'est juste, tu te demandes s'il démarre pas le football le soir où tu le regardes, parce que des fois je trouve hallucinant qu'il y a des gestes qu'il fait sur des matchs, je trouve hallucinant. Pour faire la parenthèse sur le match contre l'équipe de France,
il fait rien,
avant le but, ouais, il fait juste n'importe quoi.
Il a trois ballons dans le
mais
match.
Quand même, ouais. Il fait des centres au troisième poteau, même derrière. Et puis, pourtant, il est talentueux, il est capable de gestes fous. Donc, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités avec Mbappé, effectivement, qu'il assume ce rôle. Alors, peut-être que les absences vont le forcer à le faire. Et la solution, elle est d'être de là. Après Draxler, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi quand il est repositionné
dans l'axe,
sur un faux 10 où il est très rayonnant. Et quand il est rayonnant comme ça, aussi, il peut être à valeur ajoutée pour le Paris Saint-Germain. Donc il y a des atouts malgré tout. Et là, pour finir, juste, le PSG n'arrivera pas de toute façon que s'ils mettent l'intensité qu'ils ont mis. L'intensité, je parle, c'est les courses, c'est l'envie de se faire mal pour l'autre.
Comme Liverpool-Naples.
Comme Liverpool-Naples, c'est tout. Tout ce qu'ils ont fait avant, ça n'existe pas. La Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est tout fois 100. Et quand ils le font, avec les qualités des joueurs, ouais, ils sont capables de grandes choses. Mais il faut le faire. Il manque de sacrifices.
Timothée Rouvière.
Oui, comme le dit Nicolas, de toute façon, ce qui va être important, c'est mettre de l'impact, c'est mettre de l'intensité, c'est tenir ce rythme pendant 90 minutes et sur les deux matchs. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même le banc, parce que ça va se jouer sur la fraîcheur. On voit Paris qui arrive un petit peu essoufflé, et le premier attaquant qui risque de remplacer Mbappé, c'est Christopher Nkunku. Donc j'ai rien contre ce joueur, vraiment. Mais si on compare les bancs des deux équipes, c'est un petit peu léger du côté de Paris.
Ça va jouer sur le banc aussi, en sachant qu'il y a un match retour, on a l'impression qu'on... Vous parlez de la Coupe du Monde tout à l'heure, où c'est des matchs uniques, c'est des matchs à couper. Là, il y a un match retour. Est-ce qu'il ne faut pas, finalement, pour le Paris Saint-Germain, y aller et assurer le minimum pour avoir les retours de Meunier, sûrement de Cavani, ça risque d'être juste hein, pour Cavani. Pour Neymar, ça risque d'être très juste aussi, mais pour avoir un retour au Parc des Princes avec l'aide du public.
De toute façon, c'est l'objectif. C'est un match aller-retour. Enfin, c'est une confrontation aller-retour. Donc, ouais, le match aller, il faut le gérer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Comme vous l'avez dit, un match nul serait un bon résultat. Donc, ouais, il faut y aller. Mais en même temps, est-ce que le PSG sait le faire aussi, ce genre de gestion de match? Bon, peut-être qu'avec les absences de Cavani et Neymar, Neymar qui n'était pas un grand défenseur pour le collectif, même s'il a beaucoup bossé sur les matchs contre Naples, Liverpool et Naples. Ouais, ça sera peut-être une équipe avec un bloc équipe plus bas, plus solide, qui risque d'embêter aussi Manchester, qui n'est pas forcément une équipe de possession, qui est plutôt une équipe aussi de transition. Donc...
À suivre. La réponse sera une partie de la réponse ce sera demain soir 21h Manchester United Paris Saint-Germain à Old Trafford. Nous on se retrouve dans moins de 3 minutes et on va parler de Nicolas Dieuze, notre invité.
C'est le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, tout va bien. voisine crie très fort. C'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
C'était Orelsan sur Radio Présence.
Portez-vous bien, l'invité.
Notre invité a joué plus de 300 matchs professionnels, dont 210 avec le Toulouse Football Club, champion de France de Ligue 2 en 2003 avec les Violets. Nicolas Dieuze est aujourd'hui conseiller de joueur. Nicolas, rebonsoir.
Rebonsoir.
Vous travaillez comme avec un agent, c'est bien ça. Quelle est la différence entre un agent et un conseiller de joueur?
C'est très simple. L'agent, qui est mon associé aujourd'hui, qui s'appelle Stéphane Callard, qui a été mon agent pendant ma carrière, a une licence d'agent pour pouvoir négocier des contrats avec les clubs, ce que je n'ai pas. Et donc, j'ai un rôle bien défini dans la société. Je suis un peu recruteur d'agent, dans le sens où moi, je vais voir des joueurs. J'essaie de sentir chez les jeunes une fibre, des qualités qui me permettent un potentiel, qui me permettent... De voir en eux de futurs professionnels. J'ai un savoir-faire par rapport à ça. C'est un retour d'expérience de tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Donc, je les aide à grandir. Et je suis aussi, effectivement, une fois qu'on travaille avec eux, je fais des retours sportifs. C'est-à-dire que je parle de foot avec eux. J'essaie aussi de les préparer au métier de footballeur professionnel.
C'est un métier avant tout.
Le métier, c'est pas simplement sur le terrain. C'est... tout ce qui est en dehors, c'est la relation aux partenaires, c'est la relation aux supporters, c'est la relation aux médias. Donc on essaie de les préparer à ce vrai métier passion qui est football professionnel.
On gère plus la carrière pour d'un sportif finalement.
On gère la carrière sportive, on essaie de parler d'un projet, de créer un projet sportif. Effectivement, plus facile à faire avec les jeunes qui ont 17, 18 ans, plutôt c'est compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un jeune homme à cet âge-là. Même si, on a déjà travaillé des joueurs de 16 ans, mais moi j'aime cette relation avec eux pour avoir les structurer en fait. C'est là où on peut encore les faire évoluer. Je suis pas là, je suis pas entraîneur, je suis complémentaire de tout ce que fait le club et la formation dans le club dans lequel il est. Mais j'aime parler vraiment foot et ne pas forcément ensuite parler de business, même si ça en est un.
Timothée Rouvière.
Comment on fait pour devenir conseiller de joueur? C'est un diplôme à valider, une
non,
formation
pas du tout,
à
pas
suivre
du tout. La licence d'agent, oui, c'est un examen qui...
Ça vous intéresse
J'y pense parfois, après c'est beaucoup de travail, c'est comme partout, comme tous les examens à passer. J'en ai suffisamment à faire avec des joueurs dont je m'occupe. Pour être conseiller de joueur comme je peux l'être, c'est, si Stéphane Canard me l'a proposé, c'est parce que j'ai été joueur en fait. L'idée, c'est d'essayer de leur donner... je parlais de retour d'expérience. J'ai vécu ça pendant 15 ans. J'ai été moi-même, quand je suis rentré au Toulouse Football Club, j'avais 15 ans. J'ai eu un contrat d'aspirant, un contrat stagiaire. J'ai signé mon premier contrat professionnel. J'ai eu des hauts, des bas, des très hauts, des très bas. Des relations avec les entraîneurs plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles. Je n'ai pas trop été blessé, mais c'est une partie importante de la carrière d'un joueur. Donc la gestion de la blessure.
Être professionnel pour mieux gérer une blessure.
C'est tout. Ça. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux. Alors, je ne fais pas de gestion de réseaux sociaux, mais je les sensibilise. On essaie aussi de les mettre en relation avec une structure avec laquelle on travaille, qui va gérer ça de manière professionnelle. En fait, de faire des pros, quoi. Des vrais pros et pas simplement des joueurs qui, de temps en temps, ont des relations avec l'extérieur.
Vous gérez combien de joueurs aujourd'hui?
Aujourd'hui, dans la structure Celca Foot, nous avons une cinquantaine de joueurs. Donc c'est
Ligue 1, Ligue 2.
Ligue 2, National. On travaille avec des joueurs amateurs qui jouent à National ou National 2, des jeunes joueurs, parce qu'aujourd'hui, les clubs professionnels regardent aussi ces joueurs en National ou National 2, parce qu'il y a un vrai potentiel. On travaille aussi, nous, avec des joueurs qui sont retombés dans le niveau amateur, en ayant eu des échecs.
Vous avez un exemple, par exemple ?
Pierre Lesmelou, à Nice.
Oui.
Voilà, Pierre Lesmelou, qui n'était pas gardé par Bordeaux, qui va à l'Escap-Ferré.
Dijon, après, c'est ça ?
Dijon, Nice, voilà. Mmh. Mais j'en ai d'autres, Valentin Rosier, à Dijon, qui était à Toulouse. Pas gardé à Toulouse à l'âge de 15 ans, il va au Terrasse du Tarn, côté de Montauban, il fait Rodez en CFA, il fait Dijon. Donc en fait, on aime ce profil-là parce qu'ils sont frais. Ils s'aperçoivent de la seconde chance qu'on leur donne et je trouve qu'ils appréhendent le métier d'une façon différente. Voilà. Après, on a des joueurs plus classiques qui ont fait la formation, mais c'est vraiment très plaisant.
Maxime Brossard.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander. C'est la différence qu'il peut y avoir entre finalement un jeune qui est resté dans le carcan donc, du monde du foot professionnel, c'est-à-dire donc, le centre de formation et après directement l'équipe première, et peut-être celui qui vient du monde amateur. Est-ce que finalement, quelles sont les différences ? Est-ce qu'il y en a un qui est peut-être plus connecté à la réalité ? Est-ce que...
Il y a de ça, c'est ce que je disais, c'est qu'il a vu ce que c'était le foot amateur senior, parfois, donc avec tout ce que ça peut comporter, que j'ai revécu moi à Lisonac, quand je suis revenu à Lisonac, c'était vraiment très rafraîchissant.
On va en parler de Lisonac.
Après, moi j'ai été un joueur professionnel qui s'est construit dans le carcan, je dirais classique, ouais. Et pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir eu les pieds pas connectés avec la réalité, donc tout ça c'est aussi question d'éducation, question d'entourage, question de... Voilà, donc aujourd'hui on est facilement, on va vers ce qui brille, les jeunes joueurs qui commencent à gagner un peu d'argent, aiment bien le clinquant, donc on a l'impression qu'ils oublient la vraie vie, mais on est là, on essaie justement de leur remettre les pieds sur terre.
Justement, on remet les pieds sur terre, il y a l'entourage qui joue beaucoup, quel est le lien que vous avez avec les parents, les frères, les sœurs, les amis ? Est-ce que déjà vous avez un lien avec l'entourage du joueur ?
Bien sûr, déjà quand on sollicite un joueur mineur, on n'appelle pas le joueur déjà, c'est la même des choses, on appelle les parents. Après pour les joueurs professionnels qui sont installés, en fait la relation avec les parents elle s'éloigne dès que le joueur prend de la maturité, commence à voir sa première femme ou sa première chérie, enfin, qui fait sa vie d'homme quoi, comme tous. Hein. Donc, mais par contre on n'a pas de soucis. Avec les familles. Et de toute façon, à partir du moment où il y en a, on arrête. C'est-à-dire que chacun son métier, les choses doivent être bien cadrées. Et s'il y a de l'ingérence de la famille et qu'ils veulent nous apprendre notre métier, on arrête. Ça ne sert à rien de... Voilà, chacun son métier. J'ai été joueur, certains sont assureurs, sont banquiers, chacun son métier. Je n'interagis pas dans leur façon de voir les choses.
Timothée Rouvière.
On voit que la famille, c'est très important. On peut prendre l'exemple de Kylian Mbappé qui est très entouré par sa famille. Est-ce qu'un joueur, pour éclore au plus haut niveau, il a absolument besoin de cette famille ou quelle place vous donnez à cette famille, en l'occurrence ?
Elle peut être un atout comme un gros inconvénient. Voilà,
ça arrive souvent, la famille qui pose problème dans une carrière d'un joueur ?
Je vais prendre un exemple très précis. Sans le connaître personnellement, je pense que Atem Ben Arfa a raté sa carrière, si je peux dire qu'il a raté sa carrière, par rapport au potentiel qu'il avait. C'est un joueur extraordinaire, il n'y a pas photo là-dessus. Mais je pense que à vouloir garder le joueur, c'est-à-dire c'est pseudo-considéré par ses frères, on ne dit pas les vérités. À partir où on ne dit pas les vérités, vous partez sur un faux diagnostic, pardon, et du coup, Atem pensait qu'il était le meilleur partout où il allait, sauf qu'à un moment donné, il y a du travail derrière tout ça, il y a se mettre aussi au service du collectif. Chose qu'il a pu penser le faire à un moment donné, à Nice notamment. C'est difficile quand même quand on n'est pas structuré comme ça. Donc je prends cet exemple, mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres qui se sont
complètement perdus parce qu'ils ont privilégié sûrement pas les bonnes choses et sûrement mal conseillé. Après, il y a aussi l'éducation que le joueur il a. Souvent, les familles ne sont pas du tout présentes, mais bon, on lui a inculqué une façon de penser qui n'est pas en adéquation avec ce que pour moi est la carrière d'un joueur professionnel.
Votre carrière, justement, elle est quand même relativement rare à très haut niveau, plus de 300 matchs professionnels. On pense souvent aux paillettes, on pense souvent à l'argent. Est-ce qu'on prépare les joueurs, les jeunes joueurs, à l'échec ?
Non, clairement pas. Par contre, nous, on essaie justement dans notre relation avec les jeunes joueurs, je parle, on part du principe que quand on suit un joueur, on y va jusqu'au jusqu'au moment où il réussit, où il échoue. Mais l'échec, en fait, on l'anticipe et on essaie de le mettre sur des rails qui lui permettent d'avoir une seconde voie. Qu'elle soit footballistique ou scolaire ou même footballistique au niveau amateur. Et on sait qu'à un moment donné, on ne sera pas, nous, les bonnes personnes pour pouvoir le faire grandir à partir du moment où il sera peut-être en division d'honneur ou autre. Il y a un niveau à un moment donné dans lequel on ne peut pas travailler plus. Parce qu'on est là pour gagner notre vie aussi. Il y a des divisions qui ne permettent pas de le faire. Enfin, voilà, on parle aussi après de business. Mais et sinon, c'est... dans les centres de formation, on ne prépare pas les joueurs à l'échec. Non, clairement pas.
Est-ce qu'il le faudrait, finalement, ou alors est-ce qu'ils sont conscients d'avoir sur 100 joueurs dans le centre de formation, il y en a 10 qui signent pro?
Tout le monde est conscient. Tout le monde le sait. Les clubs le savent, puisqu'ils proposent de la scolarité quand même à leurs joueurs. C'est simplement les joueurs qui décident à un moment donné, même des mineurs décident, je ne veux plus aller à l'école parce que je donne tout sur le football. Et ça, c'est
son choix.
Une pièce jetée en l'air et ça peut fonctionner comme ça peut complètement échouer. Et malheureusement, il y a des cas, je n'ai pas de cas précis à vous donner, mais ça arrive qu'il y en a qui se retrouvent sur la paille.
Maxime Brossard.
Ouais, justement, c'est par rapport au scolaire. Vous intervenez pas au niveau scolaire, vous ne guidez pas dans les choix d'orientation ou comment ça se passe?
Quand je présente le projet aux joueurs et à leur famille, je leur dis certainement pas d'arrêter les études. Parce que moi-même, j'ai eu, pendant ma première année professionnelle, j'étais encore à la fac. Donc je ne peux pas dire à un joueur d'arrêter les études, alors que moi, j'ai fait le contraire. Et en plus, bien que ce soit difficile, certes, c'est difficile d'aller le matin, j'étais en cours magistraux, je partais à l'entraînement, vite, j'arrêtais ça. Après, je revenais l'après-midi, je ne faisais pas de sieste, forcément, parce que c'était, si le métier, j'ai dit la sieste, attention, c'est parce que pour moi, ça fait partie du métier de joueur.
Oui, récupération.
C'est pas juste de se croiser. Voilà. Et je ne faisais pas la même chose qu'eux. Mais pour autant, il y a des joueurs qui décident d'arrêter, bien qu'ils sachent que ça ne va pas forcément dans le sens de ce que j'ai pu leur dire. C'est des choix très personnels et je le respecte. Il y en a qui, mais j'accompagne aussi des joueurs qui ont des parcours scolaires de haut niveau.
Vous avez arrêté il y a pas longtemps le football professionnel. Vous avez joué beaucoup dans les années 2000 à Toulouse, à Grenoble, au Havre. Vous côtoyez aujourd'hui de très jeunes joueurs. Est-ce que vous voyez la différence de football entre votre époque, entre guillemets, elle n'est pas si lointaine que ça, et celle aujourd'hui?
Moi, je ne vois pas trop de différence. La différence, je la vois effectivement dans mon métier, c'est-à-dire que l'accompagnement des joueurs se fait de plus en plus tôt. J'ai dit l'accompagnement légal, illégal. Averti, non averti. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur les jeunes joueurs à 13, 14, 15 ans.
Là, on recherche là, le Mbappé.
Clairement, c'est une jungle. Moi, je fais pas le même. Vraiment, il y en a avec qui, au bord des terrains, je fais pas le même métier. Mais clairement, voilà. Ça a changé. Après, les choses se tassent. Quand on arrive à 19-20 ans, que les premiers échecs arrivent. C'est-à-dire que le joueur qui a été accompagné par sa babysitter pendant des années et qui voit que c'est compliqué, et finalement, tu m'as servi à quoi? C'est ça le truc. C'est que... Donc après, on récupère aussi des fois des situations un peu compliquées, mais c'est toujours intéressant quand il y a l'écoute, en fait. Je pense au principe que les joueurs qui réussissent, sans prétention, je pense que je n'avais pas des qualités de folie, mais j'avais une écoute. J'étais pas le meilleur joueur de ma génération, dans toutes les catégories c'était comme ça, mais j'étais à l'écoute et j'ai toujours mis en pratique ce qu'on me disait, et donc à un moment donné forcément ça match avec les entraîneurs.
Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, ça change énormément. Aussi,
et ça c'est vrai.
Et c'est un très gros danger pour le joueur professionnel qui est amené à être connu et qui sur le petit détail sur les réseaux sociaux.
Moi, je l'ai connu sur la fin de ma carrière et c'est vrai que par contre, j'avais un peu de maturité. Je pense que ça peut vous broyer. Hein. C'est parce que parfois, vous connaissez les réseaux sociaux. Hein, le
Facebook,
l'anonymat,
Twitter, Snapchat,
l'anonymat de ces réseaux sociaux fait qu'on se permet tout. Donc, ça va même au-delà de l'attaque du joueur. C'est difficile. Donc, effectivement. Mais ils sont connectés. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont nés avec
dedans,
ça.
Ils sont nés dedans.
Donc, peut-être aussi, ils apprennent les choses de manière différente. Mais ça a clairement changé la relation du supporter, du fan avec le joueur. Ça, c'est sûr.
Et ça, est-ce que vous pensez que un joueur sans les réseaux sociaux peut avoir la même carrière? Si vous, aujourd'hui, vous arrivez dans le monde professionnel actuellement, vous pensez avoir la même carrière, la même approche aujourd'hui?
J'essaie de m'imaginer de démarrer. Je pense que c'est jouable. Enfin, c'est pas
des joueurs le réussissent.
Aujourd'hui, c'est pas les réseaux sociaux qui font courir un joueur sur le terrain et qui font que ça.
Le micro qui tombe.
Ouais, le micro qui tombe. Ouais. non, c'est bon. Je pense que les réseaux sociaux ne sont qu'une
valeur ajoutée ou un gros inconvénient pour les joueurs, mais c'est pas ça qui fait que le joueur est meilleur sur le terrain. Donc quelqu'un qui est complètement déconnecté peut arriver à fonctionner. On a des joueurs en fin de carrière, notamment Julien Ferré, qui a jamais eu de compte de réseaux sociaux. Alors lui, il s'est fait sa carrière avant, il a continué avec, mais il pourrait pas faire avec.
Il y en a, ils y arrivent pas.
Non, mais je pense que ouais, ils n'ont pas été éduqués comme ça.
Ouais, c'est générationnel.
C'est générationnel, bien sûr.
On dit également que les joueurs aujourd'hui sont. On dit également que les joueurs aujourd'hui sont moins patients. Vous le ressentez.
Ah, clairement.
Il y a beaucoup de Dembélé, de Mbappé. On est toujours à la recherche de l'explosivité d'un gamin de 17, 18, 19 ans. Il y en a plus qu'avant qui éclosent beaucoup plus tôt.
Vous parlez de patience. En fait, moi, je faisais la relation entre justement tout ce qui était Internet, réseaux sociaux, plaisir à portée de main facile. Et du coup, ça rejaillit sur la création d'un projet sportif. C'est-à-dire qu'on voit vite de suite, on joue 10 matchs en. Regardez Gisèle Todibo, comment ça s'est passé. Vous voyez, c'est quelque chose qui.
Il a signé au Barça tout de suite. Un mot sur le. Il reste. On va dire aux auditeurs, on vient de regarder l'heure et il reste 2 minutes.
Alors, on va faire vite.
On va faire vite. Un petit mot sur le TFC, vous l'ancien joueur du Toulouse Football Club. Quel regard vous portez sur les performances plutôt moyennes, on va le dire, des violets aujourd'hui?
Je suis malheureux parce que j'aimerais que ce club retrouve de sa superbe. Et effectivement, aujourd'hui, plus que sur le terrain, on a l'impression que le club est au ralenti, même par l'équipe dirigeante. On ne voit pas de projet vraiment bien concret, ce qui est dommage, voilà, alors que Olivier Sadran est quelqu'un de très compétent et qui est un très très bon chef d'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui il a peut-être moins cette envie de construire avec le club et de stabiliser ce qui a déjà été fait, sauf qu'aujourd'hui ça devient un petit peu monotone.
Le TFC, il y a aussi l'USNAC. Un petit mot vite fait sur l'USNAC. C'est avec le recul, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Ouais. On le rappelle, l'USNAC est monté de national, donc de 3e division, en Ligue 2, et la montée a été refusée pour tout ce qui est hors sportif.
Ouais, après, je peux en parler des heures, mais je vais faire ça très simple. La Ligue est fautive à 80%, et je pense que nous, on a aussi nos
il y a des parts de responsabilité.
Bien sûr.
Et sur. Si on doit finir. On va finir là-dessus. Il y a en 20 secondes 300 matchs professionnels. Si vous devez ressortir un moment, le premier but, le premier match.
Les deux premiers buts contre le Paris Saint-Germain qui lancent ma carrière et la qualification pour la Ligue des Champions avec le
TFC, ce qui a été formidable. C'était contre Liverpool l'année suivante. Nicolas Dieuze, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci messieurs, c'est déjà terminé pour nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Grégoire à la réalisation. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Oney et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Nous on se retrouve donc lundi prochain. Bonne semaine avec Radio Présence.
Souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0804 une intention de prière. Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0804.